Je vais malheureusement rester un peu général par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et je n'aborderai qu'indirectement en fait, le thème de ce symposium. Je n'arrive pas, pour l'instant, à réfléchir à ces pratiques comme ça. J'ai besoin d'être beaucoup plus abstrait pour pouvoir y avoir accès. Donc, j'ai essayé, en fait, de revenir aux conditions de possibilité de ce que j'appellerais l'art sonore. Pardon, Bastien Gallet. Je fais partie du conseil scientifique de Locus Sonus. Et j'essaie de réfléchir un peu sur l'art sonore depuis quelques temps, en essayant de poser quelques catégories en fait, et des problématiques un peu générales, mais qui donnent accès à ces pratiques qui sont assez singulières. En fait. Donc, comment essayer d'entourer, de poser des jalons qui permettent de comprendre ces pratiques. C'est un peu mon travail, enfin, ce que j'essaie de mettre en place. Alors donc je disais que je vais essayer un peu généralement, de manière un peu esquissée, de revenir donc sur les conditions, les possibilités de l'art sonore en tant que cet art actualise dans le son d'autres puissances que celles que la musique actualise. En l'occurrence, trois puissances qui seraient le mouvement, l'image et l'étendue. Alors j'y reviendrai bien sûr. Donc il y aura une puissance kinesthésique, une puissance imaginale et une puissance spatiale qui serait en quelque sorte libérée, qui aurait été libérée, je pense, au XIXe siècle. Et ce sont ces puissances qui ont permettre à l'art sonore d'exister en tant que tel. Et je dirais donc tout de suite que l'art sonore n'est pas la musique. Alors je m'intéresserai à trois pratiques de cet art sonore. L'électroacoustique comme art des images, disons le hip-hop et les musiques électroniques comme art des mouvements et l'installation sonore comme art des étendues. Alors, que s'est-il passé au XIXe siècle, justement, et au XXe siècle, pour que cet art sonore soit possible, et pour que ces puissances aient été libérées? Alors, il a fallu, je pense, trois grands phénomènes. D'abord, des inventions techniques, bien sûr. Ensuite, un discours technologique et des pratiques technologiques de ces techniques. Et enfin, des pratiques esthétiques qui ont été couplées. Et ça, c'est quelque chose aussi de propre à l'art sonore, je pense, à une démarche expérimentale, dont Esther, à l'instant, vient de démontrer la vitalité, la puissance. Alors, je vais défendre certaines thèses que je vais exposer rapidement, puis après, elles s'expliciteront, je pense, dans le cours de l'exposé. Alors, première thèse, je pense qu'il n'y a pas de technique sans technologie. C'est-à-dire, sans un discours qui détermine l'usage que l'on fait de ces techniques, et donc aussi qui détermine les pratiques de ces techniques. Deuxième thèse, tout usage esthétique de la technique passe par une critique donc, de la technologie, car c'est à ce prix qu'elle peut constituer de nouvelles pratiques proprement esthétiques de ces techniques. Quatrième idée, cette critique de la technologie suppose l'expérimentation, car il faut expérimenter les techniques pour les détacher de l'emprise du discours et des pratiques technologiques. Enfin, tout cela pour conséquence que la pratique esthétique de certaines techniques soit souvent très postérieure à l'invention de ces techniques. Dans le cas de l'art sonore, on peut dire que l'art sonore est apparu plus d'un demi-siècle après l'invention des techniques qui l'ont rendu possible. Donc il a fallu un demi-siècle pour critiquer la technologie qui a déterminé l'usage des techniques donc de reproduction sonore et de production électronique des sons. Alors justement, je vais revenir là-dessus, parce que ce sont ces faits techniques qui, je pense, ouvrent la possibilité de l'art sonore. Alors je m'appuie pour ça, sur un livre assez formidable de Jonathan Stern qui s'appelle The Audible Past et qui repense les conditions aussi, les possibilités de ces inventions techniques au XIXe siècle. D'ailleurs, ce livre va être publié par Cargo, je crois, d'ici un an ou deux, en français. Alors, donc les inventions techniques qui ont permis l'apparition de l'art sonore, alors je dis des choses que vous connaissez sûrement, mais il faut revenir sur ces choses-là pour essayer de comprendre ce qui va suivre. Donc ces inventions techniques reposent sur deux principes essentiels, la transduction et l'amplification. Alors, la transduction est le fait de convertir le son, les vibrations sonores en autre chose. Alors ça a pu être des signes écrits, de l'électricité, les 0 et 1 du code digital. Et cette conversion est toujours réciproque, c'est le principe de la transduction. Le son transduit peut être restitué. Alors la transduction permet donc la transmission du son, téléphone et radio, et son archivage, le phonographe. Mais pour que la transmission puisse opérer sur de longues distances, il faut évidemment amplifier le signal. Donc l'amplification suppose l'invention en 1906 de la lampe à vide triode par Lee de Forest, qui permet de contrôler le flux d'électrons qui passe entre anode et cathode et donc de l'amplifier. Et donc la lampe triode marque la naissance de l'électronique et va permettre ensuite la production électronique des sons. C'est Lee de Forest qui a aussi inventé le premier instrument électronique à l'aide de la technique de la combinaison de fréquences électroniques qu'on appelle l'effet hétérodyne. Deux hautes fréquences radio créées par des tubes sont combinées et contrôlées et produisent une fréquence audible. Donc il a appelé cet instrument l'audion piano en 1915. Bon, bref. Alors tout cela, donc ces inventions techniques, reproduction sonore et production électronique des sons, tout cela suppose une transformation profonde, on peut dire un changement de paradigme, de notre conception de l'audition et de son fonctionnement, et cela suppose aussi la constitution d'un nouvel objet, scientifique et social, simultanément, donc un objet de connaissance et de pratique, le son, en tant que tel, comme pur effet auditif. Alors, un des grands artisans de cette révolution a été le savant Helmholtz, qui a démontré effectivement que le son est un effet, car un, il peut être synthétisé, et deux, il est un processus qui a lieu à l'intérieur de l'oreille. Et en produisant la même réaction nerveuse, on peut produire la même sensation. Donc pour Helmholtz, ce qui importe, c'est l'onde et pas la source. Un son est une onde qui, pour être entendue, doit être transduit par l'oreille. Et puisque le son est un effet indifférent à sa cause, les processus d'audition peuvent être simulés et reproduits. Ce qui veut dire que l'audition devient à ce moment-là une fonction mécanique qui peut être isolée et abstraite des autres sens et du corps humain. C'est ce qu'on appelle la fonction, enfin ce que Stern appelle la fonction tympanique, qui consiste donc à recevoir les vibrations sonores de l'air et les transmettre à la membrane du labyrinthe, donc dans l'oreille. Et ce principe, qui repose donc sur, en quelque sorte, l'extraction d'une fonction particulière, d'une fonction sensorielle, en fonction mécanique, ce principe sera celui du téléphone et du phonographe. Donc on voit que la théorie de l'audition, théorisée par Helmholtz, en quelque sorte, devient le principe opérationnel des machines auditives. Et ça, c'est très important, car les machines auditives, donc téléphone, phonographe, ne cherchent pas à reproduire le son en reproduisant son mode de production, comme pouvaient le faire les automates, par exemple, qui reproduisaient le fonctionnement de la bouche et des organes de la parole. Non, ces machines auditives reproduisent le son en reproduisant son mode de réception, donc le principe de fonctionnement de l'ouïe, donc celui de la transduction des vibrations par l'oreille. Donc il faut en quelque sorte une scientifisation de l'audition et du son en tant qu'onde pour permettre la construction des machines auditives. Et un très bel exemple de ça, un exemple extraordinaire, C'est une des premières machines à avoir été construite sur ce principe, c'est le phonautographe, qui est une machine étonnante, puisque c'est Bell et Blake qui ont élaboré cette machine en 1874. Cette machine fonctionne à partir d'une oreille humaine qui a été excisée sur un cadavre et qui fait partie donc du dispositif. Il y a donc un pavillon, une oreille humaine morte, fixée sur un châssis de bois qui fait vibrer un stylet traçant des signes sur une plaque de verre fumé. Donc on a vraiment, en quelque sorte, là, la séparation physique de l'oreille du cadavre qui est l'élément central, transducteur du dispositif. Les sons sont amplifiés par le pavillon, ils font vibrer la membrane de l'oreille qui fait bouger un stylet et qui inscrit les signes écrits, les signes sur une feuille de papier. Donc on a vraiment ici le principe même de l'oreille qui est en quelque sorte extrait, sorti du corps humain et déployé sur un dispositif original qui est en quelque sorte la première machine auditive. Alors on transduit pas le son sur les sillons d'un disque, mais en signe écrit, en l'occurrence. Mais le principe restera le même, en fait, jusqu'au phonographe d'Edison. Alors, donc, là on a cette révolution paradigmatique, qui est d'abord une révolution technique, et qui change notre conception du son et de l'audition, et qui permet la construction de ces machines. Bon, c'est clair. Ça suppose que le son est isolé en tant que tel, qu'on l'isole de sa source. On prend le son en tant qu'onde, et l'audition en tant que mécanique, en tant que fait transducteur, en tant que mécanisme de transduction. Le problème qui explique justement le retard, le temps différé entre cette invention technique et l'art sonore, c'est qu'autour de ces techniques et de ces machines va apparaître une rhétorique particulière, donc une rhétorique technologique, qui va, un sens en fait, un sens particulier, qui va s'emparer de ces techniques, qui n'est pas contenu en elle, hein, qui en quelque sorte leur est extérieur, mais qui va déterminer l'usage que l'on va faire d'elle et aussi toutes les pratiques d'écoute qui vont leur être associées. Alors il s'agit de la rhétorique de la fidélité. Hein, donc fidélité de la reproduction sonore au son reproduit, fidélité de la copie à l'original. Donc toute une rhétorique de la transparence, de la machine et de l'appareillage technique va être mise en place et qui apparaît très tôt. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce discours technologique apparaît dès le début de la phonographie, alors même que la question n'est pas de savoir si le son gravé est fidèle ou non à l'original, mais d'abord de savoir s'il y a ou non quelque chose à entendre. Au tout début, on n'entend même rien. Mais déjà, la rhétorique de la transparence et de la fidélité opère. Et cette rhétorique institue une opposition très claire, très nette, entre le son et la source. La voix de Caruso est bien celle de Caruso. C'est bien lui que j'entends quand je mets l'aiguille du 78 tours sur le disque. Donc opposition entre son et source et opposition entre le son reproduit et le bruit de fond, donc entre signal et bruit. Et en fait l'écoute que nous avons nous-mêmes encore, hein, l'écoute des sons reproduits, l'écoute des CD, l'écoute des disques, la technique d'écoute que nous avons apprise repose sur cette opposition, donc repose sur une technologie, sur un discours qui a accompagné la naissance des techniques. Dès qu'on écoute, on sépare naturellement le son, le signal du bruit, l'intériorité du son de l'extériorité machinique, le premier plan du bruit de fond, et tout cela afin de, évidemment, reconnaître dans le son la source. Donc on voit à quel point la technologie ici a complètement orienté profondément le sens donné à ces techniques. Et je dirais presque a été contre le grand changement qui a accompagné l'invention de ces techniques. Alors l'autre, on peut dire donc que cette rhétorique de la fidélité transforme au départ une problématique technique en une problématique ontologique, là où il n'y a qu'une opération, transduction donc, et conception du son en tant qu'onde, on entend en fait un original et sa trace, on entend une différence d'être entre un son et sa source, que la mission justement de la technique va être d'effacer ou d'atténuer. Donc on voit à quel point donc, le travail technologique est complexe et pervers en même temps, puisque toutes les pratiques de ces techniques, donc l'usage qu'on va en faire, va être déterminé par ça, par cette rhétorique de la fidélité. Et aussi évidemment les investissements industriels. Donc la technologie ici va orienter et ensuite, évidemment, la conception et l'évolution de ces techniques à travers le temps. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'esthétique. Donc l'esthétique, au départ, comme je l'ai dit, est une critique de la technologie. Il faudra attendre, je pense, vraiment les années 40 pour que cette critique esthétique de la technologie commence, s'engage. Et ce sera avec Pierre Schaeffer, donc d'abord dans le studio d'essai de la radiodiffusion française, ensuite au GRM, à la radio, à l'ERTF. Alors, l'écoute réduite donc, que va théoriser Pierre Schaeffer, notamment dans le traité des objets musicaux, sa grande œuvre théorique, suppose en fait une toute autre pratique d'écoute que celle qui sépare signal et bruit et identifie le son à sa source. Donc on retrouve dans l'écoute réduite de Pierre Schaeffer l'opposition entre intérieur et extérieur, mais avec cette différence que ce qui est extérieur n'est pas un autre son qui viendrait perturber l'écoute, mais en fait une attention à quelque chose d'autre dans le son que le son lui-même. Donc ce qui vient perturber l'écoute réduite, c'est l'écoute non pas du son, mais de son origine et de sa valeur. Alors qu'est-ce que le son lui-même pour Pierre Schaeffer ? Quel est l'objet de l'écoute réduite ? C'est précisément ce qui est entendu et qui doit être décrit comme il est entendu sans considération pour sa cause ou sa source. Et cette écoute, c'est particulière, l'écoute du son pour lui-même, Schaeffer l'a expérimenté donc grâce à un appareillage technique dont il disposait à l'époque, donc grâce en fait à une expérimentation des techniques. Donc au début c'était des disques souples, un appareil enregistreur, une console de mélange, des potentiomètres. Bon, après ça s'est complexifié, il y a eu la bande magnétique, ensuite bon, il y a eu d'autres choses. Mais c'est une pratique disons expérimentale des techniques dont il disposait qui lui a permis d'élaborer cette critique esthétique de la technologie. Et l'expérimentation est donc une nouvelle manière de mettre en pratique les techniques, donc une manière de créer de nouvelles pratiques que les pratiques technologiques. Et ça suppose évidemment une certaine conception de l'expérimentation, qui doit être complètement libre en fait, qui doit être libre et sans fin, et sans finalité particulière. L'expérimentation est un libre jeu de la technique, la technique est rendue à son libre jeu, au libre jeu des paramètres techniques. Ce qui n'est pas le cas de la technologie, qui oriente évidemment non seulement l'usage, mais aussi les inventions techniques. Et le plus étonnant, c'est que Schaeffer retrouve finalement le sens premier des inventions techniques, hein, puisque c'est bien au son pour lui-même qu'il s'intéresse, et à sa manipulation possible, c'est-à-dire il s'intéresse au son en tant qu'objet, en tant qu'onde, et aux manipulations sonores que permet cette objectivation du son. Donc transformation, évidemment, accélération, ralentissement... le fait de pitcher, de boucler, de passer à l'envers. Donc on peut dire que Schaeffer retrouve le sens du phonotographe de Graham Bell et de Blake 70 ans plus tard. Donc les techniques ici utilisées par Schaeffer sont utilisées à l'envers des pratiques admises, non dans un souci de fidélité du son à sa source ou d'élimination de la part du bruit dans le signal, mais afin d'inventer donc de nouveaux objets sonores. Alors, je citais juste deux textes de Schaeffer qui explicitent ça de manière très claire. Alors, l'écoute va se tourner vers l'une ou l'autre des perceptions extérieures, donc je cite Schaeffer, celle de l'origine du son, les indices révélant les circonstances de l'événement ou celles de son sens, ses valeurs relativement à un langage sonore déterminé. Enfin, dans un troisième cas, si l'écoute est tournée vers le son lui-même, indices et valeurs sont dépassés, oubliés, renouvelés au profit d'une perception unique, inhabituelle mais pourtant irréfutable, ayant négligé la provenance et le sens, on perçoit l'objet sonore. Bon. Et deuxième citation, 100 pages plus loin. Il y a un objet sonore lorsque j'ai accompli, à la fois matériellement et spirituellement, une réduction plus rigoureuse encore que la réduction acousmatique. Non seulement je m'en tiens aux renseignements fournis par mon oreille, mais ces renseignements ne concernent plus que l'événement sonore lui-même, Je n'essaie plus, par son intermédiaire, de me renseigner sur autre chose, c'est le son même que je vise, lui que j'identifie. En fait, Schoeffer reprend, à l'aide de la pratique même de l'écoute, d'une orientation de l'acte d'écoute, le travail technique qui était celui de Bell puis d'Edison à la fin du XIXe siècle. Donc ce qui était au départ purement technique devient ici intentionnel. Et c'est là que, on peut dire, les pratiques peuvent se réorienter, en quelque sorte. Puisque revenir au sens de ces techniques suppose réorienter la pratique d'écoute. Et c'est ça qui est fondamental, finalement, dans la musique électroacoustique et dans l'art sonore, c'est la réorientation des pratiques d'écoute à partir des possibilités offertes par l'expérimentation des techniques. Voilà, on trouve la même attitude, évidemment, chez les musiciens électroniques, hein, les manipulateurs de synthétiseurs et de boîtes à rythme, dans les années 80-90. Ils n'ont pas utilisé ces instruments commercialisés, disponibles dans le commerce, pour leur capacité mimétique d'imitation des instruments de musique, ce pour quoi ils avaient été conçus, mais pour eux-mêmes, pour le caractère artificiel, machinique de leur son. Donc on connaît cette histoire. Il est intéressant de constater que des musiciens populaires, effectivement, enfin des musiciens qui ne sont pas sortis de l'enseignement de la musique, se sont posés des questions proches de celles de Pierre Schoeffer, disons, 40 ans plus tard. Et on pourrait dire la même chose des DJs, bon, et de tous ceux qui ont manipulé cette fois-ci les instruments qui reproduisent des sons. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je voudrais juste parler maintenant de l'expérimentation et citer un autre texte de Schoeffer qui est extrêmement intéressant à ce propos. Donc dans tous les cas, chez les DJ, chez les producteurs électroniques, chez même tous les musiciens qui mettent au premier plan le son des machines elles-mêmes, hein, dans tous les cas, il s'agit de soumettre donc des faits techniques, des procédures, des protocoles, des processus devenus conventionnels à l'action expérimentale. Et ça, Schoeffer l'appelait la recherche musicale. Alors je cite un texte de lui à ce propos. Si, par exemple, je présente une tôle au microphone, il semble que je ne dispose ni d'éléments sonores variés, ni de paramètres de liberté dans la façon d'en jouer et de l'entendre. Donc, énumérons les degrés de liberté que je puis combiner pour tirer de ce même corps tant d'objets si variés que l'acousmat, donc le musicien électronique, hein, n'en croira pas ses oreilles, enfin, l'électroacousticien en l'occurrence. Toutes sortes de factures de percussion ou d'entretien utilisant maintes excitateurs sont possibles. Maillotches diverses, utilisées de multiples façons, depuis la percussion simple jusqu'au frémissement continu. D'autre part, on peut explorer tous les lieux intéressants de la tôle, en surface, sur la tranche, et plus ou moins près des points de fixation ou de suspension. Du côté des microphones, il y a toutes les possibilités d'approche, de l'ambiance jusqu'au contact, mais on peut imaginer aussi une intrusion temporelle de l'opérateur dans la facture. Si nous n'ouvrons le potentiomètre qu'après l'attaque, nous obtenons un son qui surprendra par son originalité autant que par son authenticité, nous pouvons enfin combiner le son de cette tôle avec celui d'autres percussions, comme celle d'un piano grave, si voisine. Nous composons ainsi un objet sonore grâce à deux sources conjuguées. Nous pouvons effectuer 100 essais avant de retenir celui qui aura nos préférences pour le profil de sa forme et le chatoiement de sa matière. Alors ce texte me fait penser un peu à ce que disait Esther tout à l'heure, mais à ce qu'ont dit aussi Nicolas et Lidwin. Il y a un libre jeu des paramètres dans l'expérimentation qui remet en jeu tout, hein, les techniques, la position de l'opérateur. Et sans cette expérimentation, je dirais perpétuelle, qui n'a pas de fin littéralement, qui ne s'arrête jamais au sens propre, il n'y aurait pas possibilité même de critiquer justement la technologie et d'inventer de nouvelles pratiques sonores. Je distingue vraiment très, un peu radicalement, pratique et expérimentation. La pratique arrête l'expérimentation pour l'orienter dans un certain sens. Mais l'expérimentation, en tant que telle, n'a pas de fin, littéralement. Cependant, en fonction des pratiques qu'elle va servir, elle diffère. Elle prend différentes formes. Alors là, on voit, dans le cas de la musique électroacoustique, la pratique, enfin, l'expérimentation est littéralement sans instrument. C'est-à-dire qu'elle dispose de tous les instruments possibles. Et la pratique électroacoustique, c'est une pratique sans instrument, c'est une pratique qui vise à produire des œuvres projetées sur des haut-parleurs, mais pour produire ces œuvres, tous les instruments sont possibles et disponibles. L'électroacoustique n'est pas liée à un instrument précis, c'est pour ça justement qu'elle fait image. Mais par exemple, si on prend le hip-hop, là on a un instrument, effectivement, on a des instruments, puis on a un dispositif qui existe, et l'expérimentation dans ce cas-là va viser à saturer le dispositif et en faire un instrument. Bon, c'est ce qu'on observe au début du hip-hop avec les trois grands que sont Kool Herc, Bambaataa et Grandmaster Flash, qui vont saturer le dispositif, le saturer autrement que les DJ disco ou house, pour obtenir ce fameux dispositif platine, casque d'écoute, mixette, etc., qui va venir l'instrument du hip-hop. Donc l'expérimentation n'agit pas de la même manière, mais à chaque fois on fait varier les paramètres pour soit donc, produire de nouveaux objets sonores, soit pour saturer ce dispositif, et là, dans le cas du hip-hop, produire ce que j'appellerais un flux kinesthésique. Mais bon, j'y reviendrai. Alors, donc un mot encore sur Schaeffer. Je voudrais juste insister sur les limites aussi de la conception schaefferienne. Donc Schaeffer nous dit, nous sommes d'écouter les sons pour eux-mêmes, donc d'être attentifs plutôt aux événements qu'ils sont, à l'icône et non à l'indice, hein, si je, pour reprendre la terminologie de Peirce, le son en lui-même et non sa valeur ou son sens. Bon. Mais en fait, il se trouve qu'on n'écoute jamais comme ça, hein, et ce n'est pas seulement lié à la technologie, aux pratiques d'écoute mises en place au XIXe siècle. Notre écoute est toujours indicielle ou musicale. Elle est toujours attentive aux sources ou aux notes, et donc inattentive à la musicalité éventuelle dans le premier cas et aux sources instrumentales dans le second. Et pourtant, l'écoute que théorise Schaeffer n'est ni l'une ni l'autre. Alors, et c'est pour ça qu'il a, dans son projet théorique, essayé d'élaborer, de constituer un solfège des objets sonores, fondé sur une typomorphologie du sonore, qui est d'ailleurs extrêmement intéressante et toujours d'actualité, qui est pour lui le préalable nécessaire à l'établissement d'un langage musical concret, qui repose sur d'autres critères que ceux de la notation classique. Alors, mais le problème, c'est que quand on écoute une œuvre de musique électroacoustique ou de musique concrète, on entend toujours double. On entend à la fois les sons dans leurs formes et matières, masse, allure, timbre harmonique, grain, attaque, densité, profil, bon, toutes les catégories de Pierre Schaeffer, mais on entend aussi les événements et les choses qu'ils signifient ou qu'ils évoquent en nous, en tout cas que nous leur associons, et aussi éventuellement le sens musical qu'ils pourraient avoir. Alors donc l'écoute que nous avons, l'écoute acousmatique, est toujours clivée, hein, est à la fois concrète ou acousmatique et mimétique ou indicielle. Et il se trouve que tous les compositeurs d'ailleurs de ces musiques jouent de cette ambivalence, de ce clivage de l'écoute. Ou bien en passant d'un champ à l'autre, hein, comme l'a souvent fait Pierre-Henri, par exemple, avec cette fameuse porte qui grince, où on sans arrêt on oublie la porte, et puis sans arrêt on la retrouve aussi. Ou bien en proposant même une écoute simultanée, en fait, une écoute à la fois simultanément concrète et indicielle. Et de ce point de vue-là, le travail esthétique, proprement esthétique, est dans ce clivage, justement, dans ce jeu qui oblige une double pratique de l'écoute. Mais je reviendrai juste après pour expliquer justement cette puissance d'image de la musique électroacoustique que Schaeffer n'a pas vue, en fait, je pense. Alors je vais d'abord tirer une première conclusion de tout cela. Donc, pour reprendre ce que je disais au début, il n'y a pas esthétique quand il y a seulement interprétation ou détournement des techniques. L'esthétique suppose d'abord une interprétation et un détournement des discours qui accompagnent ces techniques. Donc là, une critique donc, de la technologie. Dans le cas qui nous occupe, c'est évidemment une critique de la rhétorique de la fidélité qui est en jeu. On ne saurait en effet comment mésuser de ces techniques si leur usage n'avait pas été réglé par un discours. Donc c'est donc moins ces techniques que le discours finalement déterminant leur usage que les pratiques esthétiques et l'expérimentation va essayer de détourner. Donc, évidemment, il n'y a pas d'esthétique pure de ce point de vue-là, comme il n'y a pas de technique pure. Il y a toujours une technologie associée à une technique, et il y a toujours forcément une expérimentation et un discours associé à une démarche esthétique qui va permettre de réinventer justement des pratiques de la technique. Bon, donc ça c'est une première conclusion. Alors, mais la deuxième conclusion, qui pour moi est la plus importante, c'est que le démontage donc, de cette rhétorique de la fidélité a eu deux effets bon, qui sont perceptibles c'est chez Schaeffer hein, et dans la musique électroacoustique. D'abord, premier effet, c'est l'objectivation du son, une objectivation qui est évidemment à la mesure de son support. Il est manipulable autant que peut l'être son support matériel, hein, sillon, bande, fichier numérique. Bon. Donc le fait de faire du son pour lui-même un objet esthétique, un objet de manipulation, et cela suppose donc évidemment une machination de l'écoute, une artificialisation de l'écoute, donc une pratique technicienne de l'écoute. Et donc le deuxième effet de cette critique de la fidélité, de la rhétorique de la fidélité, c'est le devenir imagination de l'audition. Et parallèlement, le devenir image du son, mais aussi bien le devenir étendue du son, ou le devenir mouvement du son, ou le devenir kinesthésique de l'audition, ou le devenir spatial de l'audition. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de séparer le son de sa source, effectivement, pour arriver à ses conséquences. Il faut aussi subvertir profondément la rhétorique donc, qui accompagne et détermine le développement de ces techniques. Et c'est là que l'esthétique commence. Et c'est pour ça que l'esthétique est arrivée tellement tard par rapport aux techniques. Donc, ce que je voudrais simplement dire, c'est que le travail, donc les pratiques électroacoustiques, les pratiques électroniques, les pratiques d'installation sonore, donc toutes les pratiques du sound art, de l'art sonore, ont littéralement libéré dans le son des puissances inédites ou des puissances qui étaient autrement actualisées. Cette libération a été possible bon, grâce aux inventions techniques, mais aussi par cette critique-là de la technologie qui est arrivée si tard par rapport aux inventions techniques. Et c'est là où Schaeffer se trompe en partie, puisque en nous obligeant à considérer le son seulement pour lui-même, en tout cas en niant le caractère indiciel et musical des sons, il en quelque sorte, il empêche le déploiement de cette puissance imaginale qu'a permis la musique électroacoustique, et qu'a permis justement cet isolement du son de sa source. À partir du moment effectivement, où je peux considérer le son en lui-même, donc indépendamment de sa source et de son sens, je peux aussi considérer le son comme une image. C'est seulement si je sépare le son de sa source et de son sens que le son devient image. Vous voyez ? Le fait d'avoir délié le son de sa source instrumentale et de son sens musical, ça permet à l'audition de percevoir dans le son toutes sortes d'images qui étaient jusque-là liées, en quelque sorte, à l'instrument ou au langage musical dans lequel le son prenait place. Donc, en quelque sorte, il faut effectivement opérer la réduction de Schaeffer pour que cette puissance soit libérée. Mais il faut aussi aller au-delà de ce que Schaeffer nous dit, puisqu'il faut accepter que le son devienne image. Il n'est pas image seulement parce qu'il est forme, allure, grain, timbre harmonique. Bon, il est aussi image parce qu'il évoque toutes sortes d'autres sens et d'autres sources. Le fait de délier le son de source et sens permet d'inventer et d'imaginer toutes sortes de sources et de sens qui accompagnent évidemment le développement de l'œuvre électroacoustique ou de l'œuvre musicale en général. Et ça permet aussi d'entendre autrement de la musique écrite. Et les compositeurs actuels de musique écrite, les compositeurs contemporains donc, développent une pratique de l'écriture qui est beaucoup plus proche, enfin, qui est inspirée de ce travail concret. Hein, évidemment, on pense à Lahrenmann, on pense à Griset, on pense à Chiarino, on pense à tous ces compositeurs. L'écoute de leurs œuvres n'est pas une écoute musicale traditionnelle. Elle libère aussi, grâce à l'écriture cette fois-ci, l'écriture sur partition, cette puissance imaginale de la musique que la séparation technique puis esthétique a libérée. D'ailleurs, il y a beaucoup de théoriciens anglo-saxons, je pense à Simon Emerson, Luke Windsor ou Trevor Wishart, qui théorise ce clivage de l'écoute électroacoustique, de l'écoute musicale, entre une sorte de discours mimétique et un discours qui serait un discours justement du son pour lui-même. Donc ils font en quelque sorte le lien entre Pierre Schaeffer et Murray Schaeffer, entre l'écologie sonore et la musique concrète, en quelque sorte, et qui théorise cette double pratique de l'écoute de ses œuvres. Alors, je voudrais parler un peu maintenant d'une autre manière d'engager la critique de la fidélité. À travers donc la pratique, enfin l'opération qui est celle du sampling. Donc c'est une autre manière que celle de Pierre Schaeffer donc d'engager cette critique de la technologie. Alors on sait que les techniques de reproduction ont évolué vers une fidélité de plus en plus grande. Bon, c'était un peu le sens du progrès même de ces techniques. Hein. Il s'agit d'être de plus en plus fidèle à la source. Mais évidemment, on peut se demander une fidélité à quoi, hein. De même que l'aura de Walter Benjamin est une construction rétrospective, hein, une œuvre devient unique à partir du moment où elle est reproduite. De même, l'original est produit par le processus de sa reproduction, hein, comme l'est sa copie. Donc la notion d'original et de copie est déterminée elle-même par le processus de la reproduction. Donc elle n'est pas antérieure, en quelque sorte, à ce processus. Donc l'original n'est que le premier terme du processus. On sait que les conditions de la reproduction modifient aussi celles de la production. Bon. Alors, le sampling ne fait d'une certaine manière que redoubler ce processus en échantillonnant, c'est-à-dire en reproduisant ce qui est déjà reproduit. Bon. Mais cette re-reproduction fait aussi autre chose que reproduire la reproduction. En fait, elle l'extrait du processus de la reproduction. De ce point de vue-là, le sampling, bien qu'il repose sur cette logique de la fidélité, en quelque sorte, ne lui obéit pas, ne lui appartient plus. En effet, la logique du sampling n'est pas ontologique, hein, plus ou moins d'être dans l'original ou dans l'échantillon, elle est opératoire. Le sampling est une opération. Il peut servir évidemment des usages multiples et être lié à des déterminations esthétiques très variées. Mais il ne constitue pas, pour en parler, une technique. Hein, il existe de nombreuses techniques de sampling. Hein. Bon, je ne vais pas revenir mais là-dessus, mais il y en a d'innombrables. Ce sont donc les artistes qui ont inventé le sampling. Donc, le sampling est une opération esthétique qui, en utilisant donc, les moyens de la fidélité, va entrer dans une autre logique. Et donc, le sampling va donc être une critique en acte, pratique, si je puis dire, de la technologie et de son ontologie, et de son ontologisation de la technique. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de discours derrière le sampling. Enfin, le discours est venu après. Il n'y a pas le discours comme il y a chez Pierre Schaeffer. Mais il y a une pratique opératoire, hein, disons, qui prend toutes sortes de formes et qui est une critique en acte de cette ontologisation de la technique qui a opéré la fidélité. Alors, cette opération est expérimentale aussi, dans la mesure où elle vient saturer un dispositif technique. Et en faire un instrument de musique. Donc le sampling est une opération qui utilise des dispositifs, qui les sature en quelque sorte, pour permettre à des pratiques de se constituer. Donc c'est le cas du fameux dispositif, hein, platine, crossfader, casque d'écoute, dont je parlais tout à l'heure. Alors je vais finir par parler du hip-hop, puisque bon, le sampling est une des opérations centrales du hip-hop. Et essayer de comprendre ce que le hip-hop a libéré. Donc, on a vu que la musique électroacoustique avait libéré la puissance imaginale, une sorte de puissance imaginale du son. Qu'est-ce que le hip-hop, qu'est-ce que la musique électronique va libérer dans le son, qui fait que ces musiques sont, pour moi, partie prenante de l'art sonore. Alors, si on prend l'exemple du hip-hop, bon, l'exemple du hip-hop, on le sait, il n'a plus grand-chose à voir aujourd'hui avec ce qu'il était à ses débuts. Il s'est acclimaté dans presque tous les pays. Il a été pratiqué dans toutes les langues. Mais il est un geste auquel il n'a jamais renoncé. Et que donc le fameux Kool Herc, venu de Jamaïque, dans le Bronx, fut le premier à mettre en œuvre, qui est ce qu'on pourrait appeler la capture du break. Bon, je reprends une expression de Kodo Eshoun, qui a théorisé cette affaire. Alors, les fameux breaks sont les parties rythmiques, hein, purement rythmiques, des morceaux de funk et de rhythm and blues que les DJ hip-hop ont essayé de capter et d'enchaîner les uns avec les autres. Et ce geste de capture, en fait, fut une idée avant d'être un mouvement du corps, ou bien les deux ensemble, je pense, un mouvement idéal du corps qui découpe dans la réalité une sorte de motricité élémentaire, une kinesthésie incorporelle, qu'après donc, le premier geste encore un peu inexpérimenté de Cool Herc, d'innombrables autres gestes vont tenter de capter, de faire surgir et de boucler sur lui-même. Notamment Grandmaster Flash, évidemment. Donc ce qui fait que le hip-hop est avant tout, je pense, essentiellement, avant d'être la parole même, hein, l'invention d'un flux kinesthésique, la mise en boucle du break, ce qu'on appelle le breakbeat. Donc, et c'est, je pense, autour et à partir de ce flux que tout le reste va se mettre en place. Hein, donc les voix qui rappent, les corps qui vont danser, les possibles qui vont se défier, qui vont s'inventer des signatures et des emblèmes, des gestes, des postures, des expressions. Bon. On peut dire que tout l'appareillage ensuite social, rhétorique, politique, suppose ce flux kinesthésique premier que le hip-hop va libérer à l'aide de cette opération qu'est le sampling et qui va saturer un dispositif technique, qui va rejouer expérimentalement la technique et être aussi, de ce point de vue-là, une critique en acte de la technologie. Bon. Pourquoi est-ce que ce flux de kinesthésique va avoir tant de conséquences ? Parce que le breakbeat est une sensation de mouvement à incarner, et il n'a donc de sens que si on y participe et qu'être modifié par cette participation. Donc, je peux dire que dès le départ, le breakbeat est un flux social autant que musical, et donc un flux politique également. Mais ce qui est très drôle, ce qui est assez amusant, c'est que le hip-hop va mettre un certain temps à devenir explicitement politique. Hein. Je pense que le premier groupe vraiment politique de hip-hop, c'est Public Enemy, et c'est assez tardif par rapport au début du hip-hop dans le Bronx. Mais ce discours politique, en fait, est arrivé tard, mais le hip-hop était politique en pratique depuis le début. Et ce qui est intéressant, c'est que ce flux kinesthésique va permettre à des groupes de se subjectiver, donc va en quelque sorte engager des processus de subjectivation qui sont possibles parce que ce flux existe, et qui sont politiques de fait, puisqu'il produit des groupes, ils vont produire des groupes qui vont s'opposer les uns aux autres, mais surtout qui vont former petit à petit une sorte de communauté. Qu'un collectif va se constituer autour de cette puissance libérée par le flux kinesthésique. Voilà. Donc on peut dire que la capture ici esthétique du break fut aussi donc une capture subjective, celle d'un sujet collectif qui se constitue, et donc de ce point de vue-là, un fait politique. Alors, donc je termine. Donc la double révolution technique, donc, que furent transduction et amplification, à libérer donc, l'art musical des deux grands liens qui ont été les siens pendant des siècles, c'est-à-dire instrument et langage, source et sens. La musique, de ce point de vue-là, est devenue art sonore, et cet art a existé, s'est développé, parce qu'il a justement déployé ses nouvelles puissances, kinesthésiques, imaginales et spatiales. Je n'ai pas parlé des étendues sonores, donc de l'installation sonore, mais ce sera un thème à développer. Hein. J'en ai parlé ailleurs. Il y a aussi le déploiement d'une puissance spatiale. Le son devient étendu, et de ce point de vue-là, le son, qu'il est étendu, le son, évidemment, peut permettre de produire des installations sonores. Donc, le rapport, ce qu'on appelle le rapport avec des lieux. Bon. Alors, donc le son devient mouvement avec le hip-hop, image avec l'électroacoustique, et étendu avec l'installation sonore. Alors, évidemment, je ne dis pas que la musique a attendu le hip-hop pour être mouvement. Bon, évidemment, il y a toujours eu... c'est un des premiers... Cette puissance kinesthésique a été déployée très tôt, évidemment. Elle est essentielle même à la musique en général. Mais cette puissance particulière kinesthésique a été actualisée très particulièrement par les DJ hip-hop et d'une manière tout autre que n'a pu le faire la musique de danse. Alors, ces puissances qu'il faudrait expliciter ce que ce mot veut dire, hein, ces puissances du sonore, en fait, elles lui appartiennent au sonore. Hein, elles lui sont même physiquement attachées. Le son se propage dans l'espace, le son fait danser les corps, le son a des sources et des sens, et le son dure. Ça, c'est une quatrième puissance que je n'ai pas évoquée, car elle fut sans doute la plus exploitée dans l'histoire de la musique. Hein. Le son dure, le son a cette capacité, cette puissance de se rapporter au passé, de faire ressurgir le passé, de le mettre en rapport avec le présent. Bon, c'est beaucoup, beaucoup de cette puissance a été évoquée par Esther, Lidvine et Nicolas tout à l'heure. Effectivement, il faudrait maintenant repenser l'usage de cette puissance temporelle dans le cadre de l'art sonore, qui est très différente, évidemment. C'est une autre manière d'utiliser cette puissance que dans la musique écrite, par exemple. Il se passe d'autres choses qu'il faudrait étudier. Alors, mais ces puissances, effectivement, si elles sont physiquement attachées au son, ne sont précisément que des puissances, c'est-à-dire qu'elles n'existent qu'actualisées. Et elle suppose pour exister, pour être actualisée, des techniques, des discours, voilà, des démarches, une démarche expérimentale, et puis des inventions techniques. Voilà. Et l'expérimentation actualise ces puissances différemment, évidemment, des pratiques, puisque l'expérimentation actualise librement ces puissances, d'où sa force et aussi peut-être son danger. Et les pratiques, elles, reposent sur la codification de ces puissances qui supposent l'arrêt de la démarche expérimentale. Voilà. Donc peut-être y a-t-il d'autres puissances dans le sonore et peut-être que l'Locus Sonus va nous aider à les mettre à jour. Voilà. Merci.